C'est la première messe de la nuit que nous célébrons dans une église et avouons-le, ça change tout. Peut-être que ça fait un peu moins grotte de Bethléem que notre chère chapelle de Tournant, mais enfin tout de même, on est assez heureux d'être ici et puis il fait chaud comme si le bœuf et l'âne nous réchauffaient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai eu peur, alors je me suis caché. Ces termes-là, vous les avez déjà entendus, ce sont les mots que bredouilla jadis notre premier père Adam, piteusement sorti des fourrés, tandis que son Dieu l'appelait après qu'il eut mangé du fruit défendu. La peur de Dieu, j'ai eu peur. La peur de Dieu est sans doute le plus terrible des sentiments subitement apparus dans le cœur de l'homme en conséquence du péché originel. C'est une véritable gangrène de l'âme et certes de cette peur, parce qu'elle empêche l'être humain d'approcher de son Dieu autrement qu'à reculant. Qu'on songe à toutes ces religions que l'homme, au fil des millénaires, a forgées de toutes pièces, ces religions païennes, les mayas, les aztèques, ces religions latines ou grecques, dont personne n'était plus dupe à l'époque des grands philosophes, ces religions-là sont révélatrices à cet égard, parce que, au mieux, Dieu ou les dieux sont indifférents, au pire, ils sont carrément méchants à l'égard de la race humaine. On me dira que ce qui caractérise l'époque actuelle, et même au sein des croyants, c'est au contraire de la peur, une sorte de témérité complètement déplacée. La tentation de faire de Dieu une sorte de papy gâteau dont on ose approcher alors qu'on n'est pas du tout préparé à le faire, et qu'on n'est pas du tout disposé à changer de vie. Mais je vous fais remarquer que ce laxisme-là, cette espèce de conception d'immobre de Dieu, cette, comme le dit la belle Palma, théologie polnareffe, vu on ira tous au paradis se jeter dans les bras de fer, cette témérité-là plonge ses racines dans ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire dans des excès de peur. Elle est, cette conception complètement immobre du bon Dieu, comme l'anesthésiant qui permet d'exorciser à peu près la peur viscérale, la peur ancestrale que l'homme a à l'égard de son Dieu depuis qu'Adam et Ève ont péché. Quant à ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas, me dira-t-on, eh bien, leur conviction athée, je crois, procède également d'un stratagème similaire. Est-ce qu'elle n'est pas, cette position athée, la thérapie radicale qui postule que le ciel est vide, comme ça, on n'a pas à redouter. Voyez donc, je crois que c'est un fait universel que l'homme, par nature, a peur de Dieu depuis le péché originel. Et je veux dire qu'il a fallu à Dieu déployer toutes sortes de stratagèmes, tous plus fins les uns que les autres, pour petit à petit dégeler le cœur de cette créature, pour lui apprendre qu'il était vraiment le bon Dieu, comme on le dit dans l'Église catholique, comme on ne le dit plus trop, mais comme il faudrait le dire de plus en plus. Comment s'y est-il pris ce bon Dieu pour nous faire comprendre, par-delà notre peur naturelle de lui, qu'il était vraiment bon et que nous n'avions rien à craindre en sa présence. Il s'est d'abord servi de la révélation surnaturelle, à nos aînés les Juifs. Il a fallu des siècles, sinon des millénaires au peuple élu, pour comprendre qu'il pouvait s'approcher de ce Dieu-là et qu'il pouvait se confier à lui comme en un père. Mais quelle difficulté! Et lors même que Jésus s'apprête à descendre sur terre, ou le Verbe éternel dans la personne de Jésus, eh bien, il faut bien reconnaître que le peuple élu est encore apeuré devant son Dieu. Sinon, comment expliquer que le grand prêtre se contente de n'entrer qu'une fois l'an dans le sanctuaire, pour, coiffé de partout, et le visage caché, prononcer une seule fois dans l'année le nom de Dieu, avec force aspersion de sang, de génie et de taureau, en espérant que le Très-Haut ne va pas s'insurgir, parce qu'alors il disparaîtrait, il se liquéfierait. Voyez bien que même le peuple élu n'a pas réussi à juguler cette peur native qui remonte à Adam, qui l'a dit tout à l'heure. Mais surtout, le meilleur des stratagèmes, après cette préparation bon an mal an du cœur des hommes, le meilleur des stratagèmes, le plus pertinent, ce fut l'incarnation. Saint Thomas d'Aquin nous explique que l'incarnation est la souveraine démonstration de l'intensité de l'amour que Dieu porte aux hommes. La souveraine démonstration de l'intensité que l'amour, de l'amour que Dieu porte aux hommes. En effet, que trouve-t-on en quoi l'incarnation est-elle la souveraine révélation que Dieu aime infiniment sa créature? Mais il vient faire joindre une nature humaine. Il vient se coller à cette humanité qui en permanence rejoint contre l'aiguillon, qui se rebelle contre son Créateur. N'est-ce pas là la preuve éminente de l'amour de Dieu pour nous? L'amour de Dieu pour nous dans l'enfant Jésus, cette union du Verbe éternel, de Dieu-même et de cette pauvre créature que nous sommes, pécheresse et traîtresse, c'est une sorte d'embrassade, c'est un baiser que Dieu porte à sa créature. Qui mieux que l'enfant Jésus, avec ses traits enfantins que nous avons envie de serrer contre nous, d'embrasser, de prendre à bras le corps, comme on le fait avec n'importe quel nourrisson, particulièrement lorsque son visage est rayonnant, qui mieux que l'enfant Jésus pouvait nous faire comprendre ça, cette volonté qu'avait Dieu de nous embrasser. Par la personne de l'enfant Jésus, nous avons accès à baiser de Dieu. Voilà quelque chose qui n'était pas du tout attendu par le peuple juif, quelque chose qui outrepasse toutes les attentes de l'humanité. C'est pourtant cela dont il s'agit. Et ce baiser, c'est, il faut bien le reconnaître, de la part de Dieu, le baiser du lépreux. Dieu accepte d'embrasser chacun d'entre nous, pas seulement ceux qui entouraient l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, nous renouvelons cet événement, comme à chaque veillée de Noël, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire Dieu-même, vient nous embrasser, nous qui ne le méritons pas. Car il faut être un être humain blessé par le péché, le cœur refroidi, pour ne pas avoir de pitié de l'être. Dieu, lui, a pitié de nous et de notre lèpre, de la gangrène qui nous prend en permanence. Il n'a aucune peur de la contagion, parce que de contagion il ne saurait y avoir, évidemment. L'enfant Jésus est pur de tout péché et jamais il ne s'est compromis avec cette lèpre. Voyez que pour embrasser notre Dieu, il n'y a pas à avoir peur de nos limites, de nos défaillances, de nos trahisons. Pierre lui-même, qui venait d'être institué le premier des papes, a trahi Jésus quelques heures plus tard. Que fit Jésus? Il lui pardonna. C'est comme si Jésus l'embrassait et saint Pierre faisait affaire pour l'exposer. Mais bien, chers frères, songeons à quelque chose de très bouleversant, semble-t-il. Cet enfant Jésus à la crèche avait, parce qu'il était Dieu en même temps, avait la connaissance précise du péché de chacun d'entre nous et la connaissance précise de la qualité de chacun d'entre les hommes de chaque époque. Il est venu, et c'est comme ça que nous célébrons dans la liturgie de Noël, les offices de Noël, de matines, de l'eau, de veste, en porte la trappe, on le célèbre à Noël particulièrement comme le prince de la paix. Jésus est venu nous apporter la paix. Et comme il manquait à chacun d'entre nous lorsqu'il était dans son histoire, c'est à chacun d'entre nous ce soir qu'il entend apporter, par le travers de la célébration de Noël, et pour ceux qui pourront y accéder, davantage encore par la communion, c'est cette paix qu'il entend nous communiquer. La seule disposition qu'il attend de nous, c'est de reconnaître que l'esprit nous sommes, même s'il nous embrasse autrement, et que nous devons être ensuite des ministres de cette paix. C'est un insigne privilège dans ce monde qui est traversé d'opposition, de division, où l'on se hait les uns les autres, peut-être maintenant plus que jamais, je ne sais, je ne peux pas comparer, je n'ai pas connu les époques révolues. Dans ce monde-là qui est divisé, quel privilège que de pouvoir cueillir de la bouche de l'enfant Jésus la promesse qu'il nous communique sa paix. Cette paix-là, c'est celle qu'il nous donne au calvaire, ou après le calvaire, lorsqu'il est ressuscité, mais il n'attend pas 33 ans. Jésus, dès son état de nourrisson, entend nous communiquer cette paix. Alors, cueillons-la avec terre et laissons-la nos querelles familiales, nos querelles professionnelles, peu importe ces querelles, ce soit, n'ont pas lieu d'être. Accueillons cette paix que Jésus nous communique, ce baiser de l'enfant Jésus. Réjouissons-nous de pouvoir être des envoyés dès ce soir, dès même le petit pot qui suivra cette messe, et dès cette semaine, soyons des ministres à la hauteur de ce geste infiniment gracieux que Dieu fit dans l'enfant Jésus il y a 2000 ans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.